présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. Joe Biden aux portes de la Maison Blanche. L'équipe de la campagne de Trump martèle que l'élection n'est pas finie. Les États-Unis ont les yeux rivés sur le décompte des votes des 6 derniers États. La Géorgie a demandé le recomptage des voix. La Pennsylvanie pourrait toutefois être décisive. Selon les dernières projections, le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour le président républicain Donald Trump. Des élections à portée désormais de la barre fatidique des 270 voix. Est-ce le retour du couvre-feu à Paris? En tout cas, dès ce soir, la vente à emporter des restaurants et des bars sera interdite entre 22h et 6h du matin. Les précisions dans ce journal. Et y a-t-il un sentiment russophile dans le haut commandement de l'armée française? Oui, et le renseignement russe a retrouvé la même intensité que pendant la guerre froide, nous apprend l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Biden optimiste, Trump sans doute moins, mais en tout cas combatif. Depuis hier soir, il dénonce des fraudes dans le décompte des bulletins, et notamment en Pennsylvanie. Bonsoir Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant à Washington. Bonsoir Grégory. Bon, il faut dire que les écarts sont faibles. La Géorgie va procéder à un recomptage des voix, ce qui va d'autant plus retarder l'annonce officielle des résultats. Mais il n'y a pas vraiment de suspense en ce qui concerne la victoire pour Joe Biden.
Oui, vous avez raison, même si aucun grand média américain n'a pour l'instant annoncé la victoire de Biden à cette présidentielle. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est sur des marges extrêmement petites. Le candidat démocrate est maintenant en tête de 22 000 voix au Nevada, 1 500 en Géorgie, 9 000 voix en Pennsylvanie. Et en Pennsylvanie, par exemple, il reste encore 120 000 bulletins à décompter. C'est ça qui explique cette prudence. Mais oui, clairement, Joe Biden est désormais très bien parti pour l'emporter, et notamment dans cet état-clé de Pennsylvanie qui apporte 20 grands électeurs et qui peut-être dans les prochaines heures fera de lui le président élu. C'est d'ailleurs comme ça, president-elect, que tout à l'heure Nancy Pelosi a qualifié Joe Biden lors d'une courte déclaration au Capitole, au Congrès des États-Unis. Pour la chef démocrate de la Chambre des représentants, il ne fait plus aucun doute que le duo Biden-Harris va sortir vainqueur de cette élection. De son côté, la campagne Trump dit dans un communiqué que le scrutin n'est pas terminé. Il y a des signes néanmoins qui ne trompent pas. À Wilmington, dans le Delaware, on attend dans la journée peut-être un grand discours de Joe Biden. En tout cas, on s'y prépare au Chess Center. Les Secret Services qui protègent les candidats et le président ont renforcé leur dispositif autour du démocrate, comme s'il avait déjà le statut d'un chef d'État. Dans le camp Biden, on n'a pas encore ouvert les bouteilles de champagne, mais on sent bien que le sentiment de victoire est de plus en plus présent.
Alors, Grégory, on sait les 5 États donc où se joue la présidentielle. C'est la Géorgie et la Pennsylvanie qui pèsent le plus. 16 grands électeurs pour la Géorgie, 20 pour la Pennsylvanie. La Géorgie, donc, recompte ses bulletins et ça peut prendre du temps.
Oui, les autorités locales ont confirmé tout à l'heure qu'il y aurait donc un recomptage en Géorgie, parce que là-bas, l'écart entre les deux hommes est très faible. On le disait, 1500 voix. Et dans cet état du Sud, quand l'écart est inférieur à 0,5%, eh bien oui, c'est l'opération qui est prévue, recompter les bulletins de vote. C'est donc bien ce qui va se passer, mais en vérité, ça va pas changer grand-chose, parce que avec les autres États qui restent en balance, si Biden les remporte, ça lui suffira pour atteindre et dépasser ce chiffre fatidique des 270 grands électeurs qu'il faut avoir pour remporter le collège électoral et entrer à la Maison Blanche.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Donc 120 000 bulletins encore à décompter en Pennsylvanie. La Pennsylvanie où on retrouve Maxime Tellier. Vous êtes devant le Convention Center à Philadelphie, donc. Bonsoir Maxime.
Good afternoon, Annabelle.
Donc, encore 120 000 bulletins à décompter. Vous êtes dans la fièvre là-bas, sur la dernière ligne droite, dernier bulletin de Pennsylvanie.
Oui, je suis dans la rue où va se décider sans doute le sort de cette élection présidentielle. Là, la manifestation des démocrates se transforme plus en fête, en célébration de la victoire de Joe Biden ici clairement. Alors là, il y a des discours qui sont en train d'être prononcés, mais sinon c'est plutôt ambiance boîte de nuit avec de la musique des DJ qui crient « Make some noise, Philly, faites du bruit, Philadelphie ». Beaucoup de jeunes, ces fameux millennials à qui on reprochait de ne pas voter, qui là semblent avoir fait la différence, ça danse, ça crie. Il y a beaucoup de médias aussi, à ma gauche, il y a des journalistes de CNN qui sont en train de faire des directs. Là, j'ai posé mon cahier sur la voiture de CBS. Bah justement, c'est des hélicoptères, des chaînes de télé locales qui sont en train de filmer ce qui se passe ici. Vous entendez bien les hélicoptères
On les entend bien.
J'espère que vous m'entendez moi aussi.
Un peu moins bien.
Au niveau des décombres. Ah, alors attendez, j'essaie de rapprocher le micro de ma... Voilà, très bien. Alors parce que niveau décompte, Joe Biden semble avoir fait la différence ici, hein, 8000 voix d'avance environ sur Donald Trump, alors qu'il reste un peu moins de 120 000 bulletins à dépouiller. La plupart seront pour Biden, hein, parce que ces bulletins ont été envoyés de Philadelphie, ville où la majorité de la population est de façon écrasante démocrate. Parce que les votes par correspondance sont un mode de scrutin aussi privilégié par les démocrates, qui prennent plus au sérieux le coronavirus que les républicains et qui donc ont voté par correspondance. Alors ici, il y a quand même quelques militants de Donald Trump, hein, qui dénoncent eux des fraudes, des votes illégaux, un vol de l'élection, comme Donald Trump, hein, qui d'ailleurs refuse de reconnaître sa défaite. Les résultats officiels devraient être annoncés aujourd'hui. C'est la secrétaire d'État de Pennsylvanie qui l'a annoncé. C'est elle qui s'occupe des opérations de vote. Et si c'est le cas, eh bien Joe Biden rafle les 20 grands électeurs et il accédera à la Maison-Blanche.
Merci Maxime Tellier, que l'on retrouvera sans doute dans nos éditions de 22h. Les élections américaines, les résultats, les commentaires, les analyses à retrouver donc sur le site de France Culture. Et dans la plus grande indifférence, sans doute du monde entier, l'Éthiopie est plus que jamais en route pour un conflit de grande envergure. Malgré les nombreux appels au cessez-le-feu émis depuis 2 jours, la situation continue de s'envenimer dans la province sécessionniste du Tigré. Le gouvernement a lancé une offensive mercredi. Le Premier ministre assure vouloir renverser le parti tigréen, TPLF, qu'il qualifie de criminel. Le conflit a connu une nouvelle escalade hier où des bombardements auraient eu lieu. Noé Ochebaudet, il est encore difficile d'établir un bilan des combats, car cette guerre est menée dans le plus grand des silences.
Pour le reste de l'Éthiopie, c'est en effet un conflit anonyme qui se déroule à 700 km au nord de la capitale Addis Abeba. Tous les accès au Tigré sont coupés, ainsi que toutes les télécommunications. Anonyme ne veut pas dire que c'est un conflit de basse intensité, bien au contraire. On estime que la moitié des effectifs de l'armée éthiopienne s'affrontent en ce moment au Tigré. Il est encore difficile pour l'heure d'évaluer l'avancée des combats, mais on sait qu'ils se concentrent le long de la frontière entre les provinces du Tigré et de l'Amara. La province Amara qui se mobilise, elle. De nombreux civils et des milices prennent les armes pour rejoindre le front, ce qui fait craindre une nouvelle escalade vers une guerre civile de grande ampleur. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, ancien prix Nobel de la paix, cette offensive a pour but de sauvegarder l'intégrité de la Constitution qui serait mise à mal par le parti TPLF, le parti tigréen. Ce dernier invoque exactement l'argument inverse comme un symbole du dialogue de sourds qui règne entre les deux parties depuis mercredi. Un dialogue, c'est justement ce qui est prôné par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un appel ignoré par le gouvernement, pas disposé à négocier pour l'instant.
En Autriche, le gouvernement a ordonné ce vendredi la fermeture de 2 mosquées radicales que fréquentait l'auteur de l'attentat, tandis que le chef de la lutte antiterroriste de Vienne a été suspendu après les révélations d'une série de défaillances. Les services secrets slovaques auraient notamment informé leur homologue à Vienne de la dangerosité de l'auteur des attentats qui avait tenté au mois de juillet de se procurer des munitions sans que cela ne débouche sur une action concrète. Depuis cet aveu, le ministre de l'Intérieur est sous pression. Certains dans l'opposition affirmant que l'attentat islamiste, le premier de cette ampleur à frapper l'Autriche, aurait pu être évité. La Chine se ferme aux pays étrangers. En pleine deuxième vague de Covid-19, elle inscrit sur sa liste noire de plus en plus de pays. Ces jours-ci, plusieurs pays européens comme la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Il est désormais impossible pour ses ressortissants de se rendre en Chine. Des mesures donc qui lui permettent, dit-elle, de se préserver de cette deuxième vague d'épidémie, Simon Leplâtre.
La Chine a payé cher la première vague du Covid-19 qui a émergé au centre du pays, à Wuhan. La ville et toute la province qui l'entoure, le Roubaix, ont été mises en quarantaine stricte pendant 2 mois et demi, alors que le reste du pays était en confinement plus ou moins sévère. Mais cette approche radicale a fonctionné. Aujourd'hui, le virus ne circule quasiment plus, à peine quelques foyers qui émergent ça et là, rapidement éteints, là aussi grâce à des mesures très fortes. À chaque fois, des quartiers sont à nouveau confinés et des millions de personnes testées en quelques jours. Le résultat, c'est que dans la plupart du pays, on peut vivre normalement et le plus souvent sans masque. Alors pour éviter de réimporter le virus, la Chine avait largement limité les entrées et imposé des tests et une quarantaine de 2 semaines pour toute entrée dans le pays. Mais voilà, face à l'explosion du nombre de cas en Europe, les Chinois ne veulent pas prendre de risques et préfèrent se fermer totalement. Alors c'est efficace, mais un peu ironique, car on se souvient que la Chine s'était récriée quand, en janvier et février, certains pays, comme les États-Unis, avaient fermé leurs frontières à la Chine.
Et puis, y a-t-il un sentiment russophile dans le haut commandement de l'armée française ? La réponse est oui, selon Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense. La cellule investigation de Radio France a enquêté sur l'arrestation l'été dernier d'un homme en poste dans une base de l'OTAN à Naples, un militaire français qui aurait livré des secrets à la Russie. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Avec Franck Cognard, vous avez cherché à en savoir plus.
Oui, alors ce qu'on sait sur cet homme, c'est que c'est un lieutenant-colonel, père de famille nombreuse, d'une cinquantaine d'années, formé à l'école des officiers de Saint-Cyr, un russophone qui va passer 3 ans à l'école de l'OTAN en Bavière, jusqu'à sa nomination comme attaché de défense au Kazakhstan, une ancienne république soviétique où il a pu faire ses gammes en matière de renseignement, comme l'explique l'ancien ministre de la Défense Alain Richard.
Quand il était en fonction au Kazakhstan, sa mission d'attaché de défense, c'est quand même d'essayer de collecter le maximum de ce qu'on peut savoir par voie légale, non seulement du pays où on est détaché, mais de son propre champ de relations. Et évidemment, le Kazakhstan, c'est probablement celui des pays d'Asie centrale qui est le plus connecté à la Russie en termes de défense.
Ce militaire français est également envoyé en mission en Finlande, un pays soumis à une influence russe très forte, avant d'être muté à l'été 2018 sur une base de l'OTAN à Naples. Une base chargée de collecter et d'échanger des informations sur la Méditerranée, le Moyen-Orient et la mer Noire. Lancer aussi des opérations discrètes au Kosovo ou en Irak, par exemple. Et au sein de cette base, l'officier français avait donc potentiellement accès à certaines informations sensibles. Et c'est ce que cherche tout service de renseignement, explique encore l'ancien officier traitant à la DGSE, Olivier Mas.
Un service de renseignement, il adore les numéros de téléphone et les adresses mail pour pouvoir ensuite intercepter. Quand on a quelqu'un qui est inséré dans un système et qui n'attire pas la suspicion, c'est vraiment de l'or. C'est open bar, c'est un accès direct à énormément de choses.
Et cet officier français à Naples, comment a-t-il été repéré ?
Ce sont les services italiens, les services de renseignement italiens qui l'ont surpris avec un agent du GRU, le renseignement militaire russe. Et ce n'est pas un hasard, explique Alain Chouet, un ancien de la DGSE.
Ce sont des services extrêmement performants, extrêmement professionnels. Et ce qu'ils surveillent tout particulièrement, c'est les activités des officiers traitants du GRU russes sur leur territoire. Et c'est certainement en surveillant un de ces officiers traitants du GRU qu'ils ont détecté la relation avec un officier français.
Commence alors une enquête d'un an qui, selon nos informations, combine filature et surveillance électronique. Les services italiens repèrent 2 rencontres entre le lieutenant-colonel et celui qui apparaît comme son officier traitant russe. Une fois prévenu, les Français décident de saisir la justice, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé.
Ah bon ? Et pourquoi ?
Eh bien, pendant longtemps, le ministère des Armées et plus largement les services de renseignement préféraient laver leur linge sale en famille pour éviter le scandale. Désormais, la stratégie, c'est plutôt de dénoncer les faits à la justice pour stopper les fuites. Et puis, il y a peut-être une autre raison, comme nous le dit l'avocat parisien Eric Nachtat.
Il vaut mieux sortir l'affaire et la médiatiser que d'attendre qu'un organe de presse vienne sans aucun contrôle mettre un coup de pied dans cette fourmilière-là. Et là, on peut plus maîtriser. Donc, ils prennent les devants, je pense.
Prendre les devants et envoyer également un message politique au Kremlin après les affaires d'empoisonnement d'opposants russes en Europe. C'est ce que pense le spécialiste du renseignement au journal Le Monde, Jacques Folleroux.
Vous avez un moyen d'adresser un message bilatéral de Paris à Moscou en disant, alors que ça ne se fait pas dans le monde de l'espionnage, mais on dénoncera publiquement vos agissements et on saliera votre image. C'est enfin un moyen de dire, écoutez, nous, on n'a pas peur de s'attaquer à une puissance, que ce soit la Russie ou une autre puissance.
Et je précise que le militaire français arrêté se dit innocent. Il risque 30 ans de prison pour intelligence avec une puissance étrangère.
Merci Philippe Reltien. L'enquête complète est à retrouver sur le site de France Culture. Faut-il fermer les urgences de l'Hôtel Dieu ? La PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a décidé de les mettre à l'arrêt temporaire. Décision aberrante en plein Covid, estiment les élus de gauche, communistes et France Insoumise. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi le rassemblement organisé cet après-midi.
Oui, des dizaines de militants entourés par plein de policiers qui verbalisent. La préfecture n'a pas été prévenue. La CGT explique qu'elle voulait juste entrer dans l'Hôtel Dieu, soutenir le personnel en âgé, mais les grilles sont cadenassées. Au cœur de la discorde, il y a, vous l'avez dit, la fermeture des urgences annoncée mardi qui scandalise cette riveraine.
Il n'y a aucune raison de supprimer des urgences dans une période où il y a besoin de lits d'hôpitaux. c'est absolument pas justifié. L'objectif, c'est de faire de ce lieu, non pas un hôpital, mais, comment on va dire, un fief de la consommation. Et donc, moi, je trouve ça absolument abominable.
Fermeture soudaine, mais projet ancien, rappelle Maître Le Toquin. Elle est l'avocate de la CGT.
C'est une fermeture donc, annoncée depuis environ une dizaine d'années et qui se fait petit à petit. Donc, ils ont commencé par vider les services les plus importants de cet hôpital, les urgences. Là, ouais. Et les urgences, ils se servent de la Covid-19 pour y parvenir, pour fermer les urgences, en fait. Oui. C'est un prétexte.
De son côté, la PHP affirme devoir redéployer, dit-elle, du personnel pour renforcer notamment l'hôpital Cochin. La CGT rétorque que c'est plutôt l'Hôtel Dieu qu'il faudrait rouvrir, Olivier Camas.
On est en train de dire qu'il n'y a pas assez de lits de réa, qu'il y a pas assez... Ici, il y avait des lits de réa avant, il y avait 2 étages de réa ici. Et on les a fermés. Et les locaux sont encore nickel à l'intérieur. Les fluides sont encore là, l'électricité est encore là. Pourquoi le directeur général, depuis le mois de mars, pourquoi le directeur général n'a pas réouvert 2 unités ici, soit de Covid simple? Voilà, c'est ça. Il est responsable de la situation. C'est un scandale sanitaire ce qui se passe.
Mais la CGT affirme que l'oxygène et l'électricité fonctionnent bien à l'Hôtel Dieu. En attendant, la PHP rappelle le peu de passage dans le service des urgences. 26 dimanche, 47 seulement lundi dernier. Et si on rouvrait les lits de réanimation, disait tout récemment Martin Hirsch, le patron de la PHP, il n'y a pas un seul réanimateur qui pense que ça sauverait un malade. Fin de citation.
Merci, Tara Schlegel. Les enseignants le réclamaient, le ministre de l'Éducation y répond en partie favorablement. Renforcement du protocole sanitaire annoncé donc hier pour les lycées. Il y aura désormais un retour des cours à distance et l'annulation des épreuves de contrôle continu du bac. Un protocole renforcé donc, mais qui n'est pas forcément jugé suffisant, Sarah Ders.
Béchir ne fait pas partie des voix qui s'élèvent contre le protocole sanitaire renforcé, mais dans son lycée à Paris, les élèves sont toujours entassés dans les couloirs, collés dans les escaliers, à peine séparés en classe. Ce jeune homme de première est bien résigné à attendre les changements.
On nous a dit qu'il y avait une réunion par rapport à ces protocoles-là et qu'il y aurait des changements d'ici la semaine prochaine pour savoir si potentiellement il y aurait des cours hybrides, c'est-à-dire un demi-groupe qui vient en semaine A et l'autre qui va en semaine B, mais c'est tout ce qu'on nous a annoncé. Ça me convient, comme ça on peut au moins voir les profs une semaine sur deux, au moins avoir un contact avec le lycée et pas juste se dire qu'on reste chez nous et prendre ça pour des vacances et décrocher scolairement.
Encore beaucoup d'incertitudes ajoutées aux incertitudes. Les syndicats des lycéens déplorent le manque d'anticipation du gouvernement qui alarme depuis septembre. Tout le monde savait qu'il y aurait une seconde vague, précise-t-il. Grégory Abelli, représentant du syndicat Fidèle, réclame plus de moyens humains et financiers au lieu d'un protocole sanitaire précipité.
Pour nous, le plus important, c'est vraiment le dédoublement des classes. Pour continuer d'assurer un maximum de cours en présentiel, rester au contact des lycéens pour ne pas qu'ils décrochent, pour ne pas renforcer les inégalités scolaires. Cela ne peut se faire que par l'embauche de personnel enseignant, l'embauche de personnel pédagogique qui peuvent assurer la continuité de l'apprentissage, de l'éducation qu'on se doit d'avoir.
Le syndicat Fidèle se joindra à la grève sanitaire de mardi prochain.
Le couvre-feu est-il de retour à Paris? La maire Anne Hidalgo assure que non. Pourtant, à partir de ce soir, la livraison et la vente à emporter par les restaurants et les bars, ainsi que la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique, seront interdits entre 22h et 6h du matin dans la capitale. C'est une décision de la préfecture de police de Paris en accord avec la mairie de Paris. Mais pour Anne Hidalgo, pas de couvre-feu donc. Anne Hidalgo qui, sur la gestion du Covid-19, la maire avance quand même pas à pas, très prudemment, et se démarque du gouvernement, Antoine Marette.
Le bras de fer entre Olivier Véran et Anne Hidalgo ne date pas d'aujourd'hui. Le 12 mai dernier, au début du déconfinement, la maire de Paris s'oppose frontalement au ministre de la Santé en demandant la réouverture des parcs et jardins avec masque obligatoire. Refus immédiat du ministre de la Santé, les espaces verts ouvriront finalement 18 jours plus tard, un mois avant les municipales. Deuxième vague de Covid-19 et deuxième désaccord entre le ministre et la maire. Ils ferment les librairies, elles demandent leur réouverture. Devant la librairie des Abbesses, en compagnie de Sylvain Tesson, elle lance l'idée de vendre des livres sur les étals des marchés. Olivier Véran contre-attaque. Anne Hidalgo veut sauver les commerçants pendant que nous cherchons à sauver les Parisiens. Mais le ministre de la Santé doit compter avec la communication hasardeuse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui annonce à tort un couvre-feu à Paris. La maire reprend donc la main dans la gestion de l'épidémie dans sa ville en annonçant ce durcissement du confinement en soirée. Elle impose une approche pragmatique et prudente. Cette fois-ci, l'enjeu n'est plus les municipales, mais bien la présidentielle de 2022.
Et du côté de la météo, eh bien le temps demain, la pluie arrive par le sud-ouest, les températures 12 degrés maximum au nord et 19 au sud.